Aujourd'hui, Monique Brumont-Cassin revient sur la place essentielle occupée par Montesquieu parmi les grands penseurs du siècle des Lumières, aux côtés notamment de Voltaire. Bonjour Monique.
Bonjour.
Éclairez-nous.
Marié, deux fois papa. Très attaché à l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, dont il est membre et même quatre fois directeur, il va, dès 1717, débuter ses séjours à Paris. Sa proximité avec quelques personnages de la haute noblesse vont l'introduire dans des cercles littéraires où les idées déjà contestatrices émergent. Prudent, il s'en éloigne un peu, tout en les conservant dans ses relations. Car c'est qu'en 1721, un livre éblouit d'un coup tout ce qui pense, parle et influence. Anonyme, imprimé à Amsterdam, cet ouvrage est une impertinente satire de la société contemporaine, ridiculisant le haut clergé jusqu'au pape, tout en mêlant des réflexions profondes sur les travers de la gouvernance royale et les rapports entre les hommes et les femmes. Les lettres persanes sont une bombe.
Oui, oui.
On se l'arrache littéralement, puisqu'il n'a pas le droit d'être publié ni vendu en France. Et pourtant, il y aura 30 rééditions jusqu'à sa mort et il sera traduit dans plusieurs langues. Ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est comment son nom a fuité. Dès lors, notre provincial, brillant lorsqu'il raisonne et agréable lorsqu'il marivode, est réclamé partout et il est de bon goût de l'avoir parmi ses invités dans ce que l'on va nommer les salons du siècle des Lumières. Désormais, il sera associé à tous les intellectuels et penseurs de l'époque. Après la mort de Louis XIV et du régent, Philippe d'Orléans, c'est donc le duc de Bourbon, prince de Condé, qui va régner pendant 2 ans avant la majorité du petit roi. Fini Versailles, la cour se rassemble dans l'éblouissant château de Chantilly, aux écuries princières de 240 chevaux, complétées par 500 chiens de chasse à cour. Notre baron de 35 ans, en 1724, va fréquenter toutes celles qui tiendront ses originaux salons littéraires. Au prétexte de veiller sur son fils Jean-Baptiste à Paris, inscrit à 8 ans au lycée Louis le Grand, il y vivra de plus en plus longtemps. Il va d'abord se faire accepter par l'incontournable influenceuse, Madame la Marquise de Lambert, qui a déjà 70 ans. Elle reçoit le mardi, et les discussions, les lectures et autres réflexions philosophiques durent tout l'après-midi. C'est le neveu de Corneille, Fontenelle, qui le lui a présenté. Sans elle, il n'aurait jamais pu être accepté à l'Académie française en 1728, tant le Premier ministre, le cardinal Fleury, ne lui pardonne pas ses lettres persanes insolentes et met son veto. Viendra ensuite l'irremplaçable Madame de Tencin. Elle a 45 ans lorsqu'elle apparaît dans sa vie. Une sacrée femme avec un passé quasi sulfureux, dotée d'une intelligence rare et qui reçoit tout ce qui compte, intelligentsia ou politique. Son salon est surnommé le bureau d'esprit, c'est tout dire. On y croise Marivaux, Fontenelle, Maupertuis, Helvétius, des grands dignitaires, des parlementaires, des ministres. Pas Voltaire parce qu'à ce moment-là, il est un peu en exil.
Mmh.
Elle nomme tout ce beau monde ma ménagerie.
Ah, très sympa.
Il écrit « Il n'y a point de gens que j'ai plus méprisés que les petits beaux esprits » et les grands qui sont sans probité. Il a fréquenté tout ça. Le ton du monde consiste beaucoup à parler de bagatelles comme des choses sérieuses et des choses sérieuses comme des bagatelles. Et sur lui, la timidité a été le fléau de toute ma vie. J'étais moins sujet à ces abattements devant des gens d'esprit que devant des sots. Claudine Alexandrine et lui s'entendent à merveille et il a de l'affection pour elle. Lorsqu'il écrira en 1734 un livre qui sera plus académique que ses lettres persanes, avec un titre à la rallonge que je simplifie sur la grandeur des Romains et leur décadence, elle se chargera d'obtenir l'autorisation de les publier et en fera vraiment une publicité efficace. Mais elle doit être remerciée pour l'aide essentielle qu'elle va lui apporter lors de la parution, toujours anonyme, à Genève cette fois, de son œuvre mondialement connue « De l'esprit des lois » en 1748. Il s'agit là du premier ouvrage de science politique. Toutes les connaissances de Montesquieu se battent pour en avoir un exemplaire ou même quelques feuilles, même pour quelques heures, alors qu'il ne se diffuse qu'en cachette. Succès phénoménal dans l'Europe entière, mais qui le met en danger en France. Son ami meurt juste après. Il y aura encore les beaux moments chez la marquise du Défant, à qui il témoigne confiance et affection, leur correspondance, elles aussi conservées, comme celle avec Madame de Tencin et tant d'autres, nous en apprennent beaucoup sur l'homme Montesquieu.
Et demain, Monique, vous nous ferez découvrir un Montesquieu amoureux. À demain.
Au revoir.
Au revoir.